franceinter.fr.
Selon la manière de les compter, il serait jusqu'à 3 millions en France, les électros hypersensibles aujourd'hui à la une de la science.
Pour moi, c'est essentiellement des maux de tête très forts, des problèmes cardiaques, des problèmes de concentration, des troubles de la mémoire qui se manifestent quand je suis soumise au champ électromagnétique artificiel.
Voilà, et dans un rapport très attendu sur les électros hypersensibles, l'Agence nationale de sécurité sanitaire tente aujourd'hui de faire le tour de ce trouble encore très difficile à cerner. Des symptômes déclarés bien réels, mais aucun mécanisme biologique identifiable pour l'instant, et surtout aucun lien de cause à effet avec une exposition aux ondes électromagnétiques. L'Agence préconise plus d'écoute et plus de recherche. Axel, on en discute avec notre invité.
Oui Mathieu, nous sommes avec Olivier Merkel de l'ANSES, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de l'unité troubles physiques qui accorde ce rapport. Alors, puisque les causes demeurent inaccessibles, parlons des symptômes. Quels sont les symptômes répertoriés qui permettent de définir une personne électro-hypersensible ?
Alors, ça va être un peu difficile de faire la liste, elle est très longue. On peut compter pratiquement une centaine de symptômes. Par contre, évidemment, d'une personne électro-hypersensible à l'autre, ces symptômes varient fortement. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est qu'ils se plaignent finalement, en tout cas, ils associent ces symptômes à une exposition au champ électromagnétique à diverses sources. On retrouve à la fois en cause les téléphones mobiles, le Wi-Fi, mais aussi les câbles électriques au domicile.
Quel était le but pour l'agence avec ce rapport sur lequel vous avez travaillé pendant 4 ans, c'est ça ?
Oui, près de 4 ans de travail. Je crois qu'en fait, tout simplement, la question de l'électro-hypersensibilité, elle était finalement abordée un petit peu de manière à côté des effets des champs électromagnétiques. Et finalement, personne, aucun organisme dans le monde n'avait vraiment travaillé sur le fond, sur cette question. Et je crois qu'il faut souligner aujourd'hui l'ampleur du travail de l'agence qui a permis de mettre en lumière finalement ce que c'est qu'aujourd'hui l'électro-hypersensibilité, comment ces personnes vivent avec ces symptômes, la manière dont ils souffrent de ces symptômes. Je crois que la première recommandation qu'on peut faire, c'est vraiment prendre en compte, prendre en charge les symptômes que ces personnes expriment.
Oui, mais concrètement, comment vous avez travaillé sur le sujet ? Alors, vous avez compilé des études ? Qu'est-ce que vous avez fait ?
Alors, l'originalité de ce travail, c'est bien évidemment les méthodes classiques d'investigation scientifique. On a effectivement recensé toute la littérature disponible sur le sujet, et elle est relativement abondante. Encore qu'il y a encore des choses à faire, bien sûr, mais surtout, on a entendu, on a écouté, on a auditionné un très grand nombre de praticiens qui reçoivent des personnes électro-hypersensibles. On a évidemment entendu les témoignages de ces personnes, des associations qui les représentent, et on a essayé de compiler finalement toutes les hypothèses qui permettent d'une part d'essayer d'identifier des causes à ces symptômes. On a évidemment investigué l'éventuel lien de cause à effet entre l'exposition aux ondes et ces symptômes. Et effectivement, aujourd'hui, les données actuelles ne mettent pas en évidence de lien de causalité entre l'exposition au champ et les symptômes qui sont décrits.
Ça veut dire qu'une personne qui se déclare électro-hypersensible n'est pas capable de détecter la présence ou l'absence de ces ondes autour d'elle, c'est ça ?
Alors, à part quelques études, notamment dans le domaine de ce qu'on appelle des basses fréquences, c'est-à-dire l'exposition au champ émis par les câbles électriques, effectivement, les études qui ont été aujourd'hui réalisées tentant de faire le lien entre l'exposition des personnes et la perception des symptômes n'arrivent pas à des résultats positifs. Pour autant, ça ne veut pas dire que ce lien n'existe pas. Aujourd'hui, le problème scientifique, je dirais, sur cet aspect reste entier, et les causes de l'électro-hypersensibilité restent inconnues.
Alors, vous l'avez dit, vous avez balayé 18 hypothèses dans le rapport pour tenter d'expliquer ce trouble. Aucune n'a trouvé de réponse et qui ne permet d'expliquer au moins de manière probable le trouble. Il y en a une dont j'aimerais qu'on parle, c'est l'effet nocebo. Vous y passez 3-4 pages, c'est faible je trouve, parce que c'est peut-être celui qui permet le mieux d'expliquer ce qu'on voit en ce moment.
Alors c'est effectivement aujourd'hui ce que beaucoup de personnes pensent, c'est je dirais presque un petit peu la solution de facilité, c'est-à-dire d'imaginer que finalement tout est dans la tête, que parce qu'effectivement on connaît bien l'effet placebo, on connaît un petit peu moins l'effet nocebo, mais effectivement...
Rappelez-nous ce que c'est vraiment.
Alors en fait concrètement, quand on a finalement la crainte par exemple d'un effet indésirable qui serait causé par un médicament ou par autre chose, une exposition, qu'on développe des symptômes en lien avec cette exposition, eh bien, la seule idée, la seule crainte peut permettre de développer ces autres symptômes. En l'occurrence, On n'a pas de données scientifiques aujourd'hui qui nous certifient que la cause vraiment de l'électrohypersensibilité est liée à cet effet nocebo. Par contre, effectivement, ce qu'on met en évidence, c'est que cet effet nocebo peut intervenir dans l'entretien des symptômes des personnes électrohypersensibles. Par contre, voilà, aujourd'hui, pas de preuve que ça soit l'origine de l'électrohypersensibilité.
Mais vous dites des symptômes et des troubles réels déclenchés par des causes inexistantes. Ça ressemble beaucoup à la conclusion de votre rapport, en fait, cet effet nocebo.
Alors, la conclusion du rapport, c'est finalement la nécessité de dépasser un petit peu cette idée. Je dis pas que c'est simpliste, mais dépasser ça, prendre en charge les symptômes. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que des personnes souffrent. Leurs symptômes sont parfaitement réels. Je crois qu'il faut pas nier ça aujourd'hui. Et impérativement, les prendre en charge, assurer les conditions qui vont permettre de les soigner.
C'est vraiment la conclusion de votre travail, d'ailleurs. C'est-à-dire que voilà, pour le moment, on n'a pas de preuves scientifiques, mais pour autant, il faut pas laisser ces gens-là de côté et prendre en considération quand même ce qu'elles manifestent.
C'est ça, ces personnes, elles existent, elles expriment parfois des souffrances importantes avec différents degrés. Hein. Il y a beaucoup de personnes EHS finalement qui arrivent heureusement à vivre avec cet ensemble de symptômes, d'autres qui sont beaucoup plus affectées. Ça peut conduire à un isolement d'ailleurs psychosocial assez important. Mmh. Et voilà, ce qui est primordial aujourd'hui, c'est de les prendre en charge, d'améliorer cette prise en charge.
Merci Olivier Merkel. Merci. Vous êtes responsable de l'unité troubles physiques donc à l'ANSES et vous avez coordonner ce rapport. Merci Axel.
Merci, à demain.
À demain. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, l'ornithorynque, élu détenteur du lait le plus antimicrobien, ce monotrème original qui a l'apparence à la fois d'une taupe, d'une loutre, d'un castor et d'un canard, pourrait bien être le sauveur de l'une des pires menaces sanitaires de notre époque, donc la résistance bactérienne aux antibiotiques. Une équipe de scientifiques australiens a pour la première fois décrit une protéine clé du lait de ce mammifère aux propriétés antibiotiques très efficaces. La biochimie particulière de ce lait laisse rêveur les scientifiques qui espèrent grâce à lui trouver donc un jour une nouvelle façon de répondre aux infections bactériennes. Des chercheurs ont découvert des traces de vie sur la Terre, et c'est très sérieux. Il y a 30 ans, la sonde spatiale Galileo, survolant la Terre, avait révélé des données permettant d'affirmer que la photosynthèse était détectable depuis l'espace. Et en 2017, l'expérience a été renouvelée avec la mission Osiris. À l'aide de spectrographes, l'équipe d'astronomes de l'Université d'Arizona confirme donc que la vie est visible depuis l'espace. L'expérience a également mesuré des taux atmosphériques de dioxyde de carbone et de méthane, bien plus élevés d'ailleurs qu'en 1997, preuve du réchauffement climatique en cours. Et pour les exobiologistes, ces tests sont majeurs pour mieux préparer la recherche de la vie sur d'autres planètes. Et puis l'histoire terrible d'une femme qui a accouché dans sa tombe il y a plus de 1000 ans, non loin de Bologne. Des archéologues italiens ont découvert cette scène d'horreur du Moyen-Âge, donc une tombe de pierre de l'époque médiévale. Les ossements d'une femme et ceux d'un fœtus entre les jambes du squelette. Publié dans le journal World Neurosurgery, les résultats montrent que la femme serait morte des suites d'une trépanation. Cette chirurgie primitive était pratiquée pour soigner l'hypertension artérielle à cause de nombreux décès pendant la grossesse au Moyen-Âge. La sinistre découverte illustre ainsi un cas de naissance de cercueil, phénomène d'expulsion de bébés post-mortem relaté dans la littérature scientifique.